Vous écoutez
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là, j'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'after-foot, Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs. Nous sommes en direct, bien sûr, en direct à la radio sur RMC, en direct à la télé sur RMC Sport News dans l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Ce soir, Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Jérôme Brantaine, bien sûr. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et l'homme du jeudi, il est là, l'homme du
le
jeudi.
Le guest, il est là, le guest.
Exactement. Willy Sagnol, bonsoir.
Salut messieurs.
Ça va Willy?
Très bien. Bon. Très très bien quand je suis là.
Plusieurs événements.
Super dry ce soir.
Oui, décontracte.
Ah oui, là, vraiment. Là...
Bah, c'est ce qu'on m'a dit. L'after, tu dis ça tout le temps, Gilbert. C'est décontracté. On est entre nous, on est bien.
Il y a quand même 4 millions de personnes qui nous écoutent, mais non, entre ouais, nous, mais là, on est décontracté.
Ouais, mais ceux qui écoutent, ils regardent pas la veste.
Non, mais là-dessus, t'as raison. Alors, vaut mieux pas qu'ils regardent non plus le pull de Jérôme.
Qu'est-ce qu'il a, mon pull?
Bah, plus le camionneur pour venir à la télé, excuse-moi. C'est pas parce que c'est une marque que ça enlève le fait que ce soit un pull camionneur.
Et marque ou pas marque. De toute façon, je mets que des marques. Oui. Je vais pas mettre une merde.
Mais il n'empêche que c'est un pull camionneur.
Donc, c'est un pull en cachemire, excuse-moi.
Mais camionneur. Voilà. Alors, peut-être que.
Messieurs, après ces considérations dont on se fout complètement, j'aimerais vous donner le programme.
Bon, l'autre, il a mis une veste avec des petites.
Oui, il a mis sa veste de la rue Lauriston. Bon, bah, ouais, sa veste de la rue Lauriston.
Franchement, en plus, t'as pris un peu de poids parce que tu me parais un peu serré. Là, tu sais quoi, si
bon,
tu le fermes.
Bon, stop, on s'en fout.
Pourquoi la rue de la rue Lauriston?
Tu travailles pas les costards des gars de la rue Lauriston?
Bah, c'était la rue Lauriston, plutôt des 3/4 cuir croisés, quoi.
Non, mais il y avait aussi des vestes rayées en dessous du 3/4 cuir.
Non.
Ah, si, si.
Du tout genre, c'était des grosses rayures. C'était certainement pas ce genre-là.
T'arrives à bouger là quand même?
Bien sûr, pourquoi?
Non, parce que ouais, tu me parais triqué.
Je me suis un peu musclé récemment.
Messieurs, plusieurs événements ce soir dans l'after. D'abord, une plongée dans l'histoire des erreurs d'arbitrage. Adriano Recchia sera avec nous tout à l'heure. Il a réalisé un doc sur la question qui est disponible en replay sur RMC Sport. Et vous allez vous réapprendre plein de choses, vous remémorer.
Une émission transversale.
Plein d'histoires extraordinaires. Il sera avec nous tout à l'heure à 22h. Et puis, autre plongée dans l'histoire du football yougoslave. Sans doute un des foots les plus extraordinaires qui soit, avec des joueurs de dingue. L'équipe de 90 était peut-être une des meilleures de l'histoire et pourtant elle n'a rien fait. Elle a été éliminée en quart finale du mondial.
Au pénal, par l'Argentine.
Exactement.
Avec un super Goycochea qui a un peu tout stoppé.
Et derrière, la guerre a suivi et le foot a eu un rôle prépondérant dans à la fois le déclenchement de la guerre et la réconciliation derrière. Donc on parlera de toutes ces histoires-là tout à l'heure à l'occasion de la sortie d'un bouquin passionnant sur le sujet. D'ailleurs, Mecha Bazdarevic sera avec nous puisqu'il a vécu ça en première ligne. Il était sur le terrain.
Et puis il a du temps maintenant.
C'est vrai. Avant cela, le mercato, débat sur le mercato marseillais dans quelques instants, on va entendre André Villas-Boas.
Débat sur le mercato à l'OM alors qu'il ne se passe rien, que personne n'arrive et personne ne part.
C'est bien pour ça que ça vaut le coup de faire le point.
Bah vas-y. Hein.
Bon, non, c'est pas tout de suite. On va profiter de la présence de Willy pour dire un mot quand même de Dortmund et de la situation parisienne. Et puis la journée de Première Ligue de cette semaine, analysée par Julien Laurence dans quelques minutes. Ce sera aux alentours de 21h40. Oui, parce qu'on jouait en Première Ligue cette semaine. Il y a d'ailleurs un match ce soir. Hein. Liverpool joue ce soir. Petit point score, les gars.
Ça va être commencé.
Wolverhampton-Liverpool, on joue depuis 5 minutes, 0-0. Voilà. Avant 23h20, la chronique de Julien Cazard, évidemment. Il se mettra dans la peau de Noël Le Graët ce soir. Oui, c'est pas mal. On aura Max, comme tous les jeudis, notre patron du standard. Et puis le quiz, tout à l'heure à 23h40, évidemment, pour pourquoi pas tenter de jouer avec Jérôme Brantaine et gagner. C'est possible si Daniel et moi ne sommes pas en forme, ce qui est assez rare. 32-16. Hashtag RMC Live, Direct Studio, on vous attend pour débattre, bien sûr, concernant tous les sujets du soir. Et on va donc démarrer par l'OM. Jingle Mercato, parce qu'évidemment, qui dit OM dit Mercato, c'est parti.
C'est combien?
30 000.
Attends, je vais te le marchander.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Voilà. Bon, excuse-moi, mais ce Jingle Mercato reste pour moi le meilleur, Daniel. Je sais que tu préfères l'autre.
J'aime partager les plaisirs.
Bon, il faut pour tout le monde.
Serge Benhamou, ça reste Serge Benhamou aussi.
Ah, Serge Benhamou, c'est une légende. Ouais. Tout comme Patrick Abitbol.
Exactement.
André Villas-Boas s'est exprimé aujourd'hui. Florent Germain est allé le voir, hein, l'homme qui fait l'information à Marseille. Et évidemment, ce matin, une de l'équipe, Dimitri Payet, pourrait partir. Que se passe-t-il et tout. Info RMC Sport aujourd'hui, non. Il n'est absolument pas question qu'il parte de Marseille. D'ailleurs, écoutez tout de suite ce que dit Villas-Boas de Dimitri Payet. Il en fait définitivement un de ses hommes clés pour la fin de saison. On y va, c'est parti.
Je pense que cette Ligue des Champions, cette qualification pour cette Ligue des Champions n'est pas possible sans un joueur comme Payet. Il a cette importance de notre effectif et il nous va manquer, ça c'est sûr. C'est seulement pas seulement sur l'aspect de sa qualité de jeu, mais aussi sa personnalité et sa autorité dans l'équipe. On a besoin d'un effort de la part de tous pour compenser cette grande absence.
Voilà, là, il parle du match d'Angers, hein, concernant l'absence de Payet. Hein, il ne parle pas d'absence définitive.
Oui,
hein.
Parce que
il est suspendu contre Angers. Parce qu'on aurait pu comprendre que. Non. C'est bel et bien pour le match d'Angers.
Magie des temps modernes.
Mais donc, la Ligue des Champions, si on y va, ce sera avec Payet. Sinon, ce n'est pas possible, dit Villas-Boas.
C'est la magie des temps modernes.
C'est-à-dire
ben, un mec sort une connerie, comme quoi West Ham veut Payet. West Ham dit non, il n'a jamais été question. Mais on va quand même commenter.
Non mais surtout,
et on va quand même dire, et ça oblige Villas-Boas en conférence de presse à faire l'information.
Ça, c'est le jeu du football, Daniel.
Et à dire, oui, mais,
non, mais Daniel,
le con qui a sorti ça au départ, on est obligé de lui donner de l'écho.
Ouais, mais justement, justement, à un moment donné,
ne serait-ce que pour dire que c'est faux. C'est quand même important.
Mais celui qui sort ça, de toute façon, si tu connais un peu la situation, tu peux pas le prendre sérieusement. Il faut rappeler quand même que Payet a presque fait grève pour plus jouer à West Ham pour pouvoir partir à Marseille. Comme si aujourd'hui West Ham allait le reprendre, je suis sûr les supporters ils seraient vachement contents.
Ah, tu m'étonnes.
Ils veulent même pas l'entendre.
Non mais justement, voilà.
Bah, donc c'est ce que je te dis, magie des temps modernes, un truc absolument impossible. Il faut quand même le commenter. Villas-Boas en conf est interrogé dessus et lui il doit répondre.
Mais le but du jeu, tu le vois aujourd'hui dans les conférences de presse. Le but du jeu, c'est à celui qui va arriver à faire craquer Villas-Boas pour qu'il dise mon président m'embête, je veux me barrer. T'as l'impression que c'est ça le jeu actuellement.
Ah, oui.
Parce qu'il y a rien qui se passe, donc t'as l'impression que c'est ça le jeu.
Là, tu te places sur une position de coach que tu es toujours, enfin ou que tu reviendras peut-être bientôt, mais que t'es un coach, Willy.
Oui, mais
donc là tu te mets dans la position du coach. Nous qui sommes dans la position des médias, on pose des questions. L'autre jour Florent Germain, je pense pas qu'il ait fait craquer Villas-Boas quand Villas-Boas dit je suis pas content de la situation parce que je suis pas au courant pour la nomination d'un gars qui doit refourguer des joueurs et moi je lis mon sort à Zubizarreta et moi je ne sais pas si je vais rester. Il avait un message à faire passer.
Oui, mais quand tu les vois les conférences de presse depuis 3 semaines de Villas-Boas, c'est toujours les mêmes questions qu'on lui pose. Alors parfois avec des mots différents, des intonations différentes. Parfois on lui pose pas ça en premier, on va lui poser ça en question numéro 2 pour essayer de l'avoir dans un sens ou dans l'autre. Mais t'as l'impression que c'est un petit jeu en ce moment, que c'est celui qui va arriver à faire dire, puisque Villas-Boas c'est un bon client, il parle plutôt directement et il s'exprime très bien, donc c'est bien. Mais t'as l'impression que c'est un petit jeu.
Jérôme, t'as cette impression toi?
Je sais pas s'il y a un jeu, mais de toute façon, c'est quoi le débat là? C'est quoi? C'est de savoir si Payet.
Le débat, c'est de faire le point sur ce qui se passe à Marseille. Et Villas-Boas, ça parlait du mercato. On va l'écouter dans quelques instants.
C'est de faire le point sur le fait qu'il ne se passe rien. Donc, si tu pouvais commenter le fait qu'il ne se passe rien à l'OM, c'est
chouette, en fait, on a commenté à juste titre.
Mais justement, le fait qu'il ne se passe rien.
Et alors, l'OM poursuit sa saison, Gilbert. L'OM est dans une saison. Ça se passe bien. Effectivement, William, je trouve assez raison en disant comme il y a eu la sortie de Villas-Boas, que j'ai trouvé normal parce que il s'est inquiété, il a eu besoin d'une mise au point. La mise au point a eu lieu, même plutôt rapide, il faut féliciter. Pour une fois, on peut le faire. La direction de l'OM qui a rapidement tout aplani. Il n'y a plus de problème. On poursuit la saison. Les résultats sont bons. On avance. Bon, voilà. Mais le fait qu'il se passe rien, mais tant mieux. Je veux dire, faut arrêter d'emmerder l'OM quand il n'y a pas à emmerder l'OM. C'est comme si, effectivement, ce que dit Willy, c'est il faut toujours aller chercher, il faut toujours essayer de remuer et tout. Ça va, ils bossent bien, ils ont envie de finir la saison comme il faut, le groupe est totalement focus, la deuxième place leur tend les bras, laissez-les tranquilles. Après, qu'il y a un con qui sorte que West Ham est intéressé par l'OM. Mais franchement, nous, on est encore plus con.
En l'occurrence, Daniel, c'est un confrère qui a dû bosser.
Non, c'est un con.
Ne dis pas ça.
Gilbert, arrête.
Mais respecte un peu le travail du gars. Qu'après, qu'il soit éventuellement trompé et qu'il soit démenti derrière.
Non, mais Gilbert, un mec qui sort. Alors, moi, je connais pas cette personne, mais c'est donc, je suppose, un journaliste, si tu dis un confrère, qui sort une information comme ça.
Tout le monde se dit journaliste.
Non mais
c'est l'équipe qui a sorti ça,
ça a été démenti dans l'après-midi.
Non mais si tu sors une information comme ça, c'est que tu sais qu'il y a un réel intérêt. Sinon tu le sors pas.
Tu rigoles, aujourd'hui tu sors juste comme ça.
Ben bah non, ben bah moi je c'est pas du journal.
Alors la moitié d'un coup de
alors c'est pas bon. Alors c'est pas ce que alors c'est peut-être les anciennes générations, je sais pas, mais c'est pas ce qu'on appelait le journalisme. Journalisme, c'est tu relais une information. Attendez. Tu vas chercher une information.
Évidemment, Willy, le mec, il n'a pas écrit ça juste parce qu'un type l'a appelé hier soir à l'apéro en lui disant au fait,
ça y ressemble. C'est impossible.
Mais écoute, moi, je ne travaille pas à l'équipe, mais par principe, je veux les défendre parce que c'est quand même des gens sérieux. Il ne faut pas dire n'importe quoi.
Non, mais on ne dit pas qu'ils ne sont pas sérieux. Mais avant d'écrire quelque chose comme ça.
Tu veux combien d'exemples sur les trucs pas sérieux?
Mais non, dans le mercato, d'ailleurs, tu sais bien qu'il y a aussi des jeux de dupes, que des fois, tu peux aussi te faire manipuler. Ça peut
tu peux écrire des conneries aussi.
Moi, je sais pas ce qui s'est passé sur ce cas-là, mais enfin, il faut pas leur tomber dessus comme ça.
À l'arrivée, on va pas leur tomber dessus.
Tu veux ce que je veux dire, c'est que l'histoire du bus, pas madrilène au parc, c'était pas une énorme connerie.
Personne n'est à l'abri d'importe quel média.
Bien sûr que personne n'est à l'abri, mais sinon, on fait une connerie, je le dirais. On a été cons.
Mais je pense qu'ils l'ont fait parce que la preuve, il y a eu un démenti.
Alors, je cherchais à expliquer.
Non, mais il y a eu un démenti, Daniel. Aujourd'hui, il y a eu un démenti de fait. En effet, il n'y a pas de contact avec Payet, mais peu importe, à l'arrivée, il y a eu cette information qui est sortie. Je ne sais pas comment elle est arrivée aux oreilles de ce journaliste.
Mais on lui demandait d'être arrivé par Sky Sport au départ.
Mais on s'en fout. À l'arrivée, ce n'est pas ça le problème. C'est que Payet, dans la situation de Marseille, soit convoité à West Ham ou à un autre club, ça me paraît logique de toute façon. Et Villas-Boas le dit.
C'est un des meilleurs joueurs de l'OM.
C'est son meilleur joueur. Il le dit de toute façon.
Pas 32 ans, son transfert à West Ham dans un club. Il est parti fâché.
Mais Daniel. À West Ham, en Turquie ou je sais pas où, on s'en fout. C'est même pas la question. C'est qu'il soit convoité. Ça me paraît logique dans tous les cas. Surtout que Marseille est apparemment vendeur de tous les joueurs. Donc encore plus les gros salaires certainement pour faire des petites économies. Donc Villas-Boas il réagit là-dessus, à savoir que déjà l'absence de Payet sur ce match-là de ce week-end est embarrassante pour lui. Donc on a très bien compris comment il l'estimait Dimitri Payet. Et je pense que pour l'année prochaine, en effet, en perspective de la Ligue des Champions, s'il se qualifie, s'il continue comme ça, Payet devra être dans l'effectif marseillais si Marseille veut espérer, alors pas que Payet, et il en faudra d'autres, mais veut espérer au moins faire bonne figure. Donc voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'encore une fois, que Villas-Boas, il a été vers
l'avant. L'année prochaine ?
Ouais.
Ah non, il faudra quand même beaucoup plus. Parce que Payet.
C'est ce que dit Jérôme.
Parce que il faudra beaucoup plus que Payet.
À minima, il faudra Payet.
Parce qu'en Ligue des Champions, il n'a jamais rien fait. Les grands matchs, jusqu'à.
Ça
reste. À 33 ans, donc. On va changer les natures à 33
ans. Daniel, il a fait la Ligue des Champions avec quelle équipe ? Quel coéquipier il avait avec lui ? Je te parle pas de Payet comme Lionel Messi ou quoi que ce soit. Mais Payet est un joueur international. Payet est un très bon joueur.
Mais Jérôme,
donc Payet, un match de Ligue des champion bien encadré, bien entouré, avec une équipe qui va vers l'avant, il n'est pas capable de faire des bons matchs. Écoute, arrête. T'aimes le foot. T'aimes les joueurs techniques. T'aimes la qualité de passe. Dimitri Payet.
Donc Payet, à 33 ans, va faire ce qu'il n'a jamais fait. Et ton excuse, c'est de dire qu'il n'a jamais été entouré comme il faut. Mais s'il avait été très bon, il aurait été entouré comme il faut parce qu'il aurait été convoité par des grands clubs, ce qui n'est jamais arrivé. Donc moi, je défends Payet sur tout ce qu'il a fait depuis le début de la saison parce qu'il a été excellent à l'OM. Mais dans ce contexte-là, un contexte de petit club dans lequel il s'épanouit. Il n'a jamais été convoité par un gros club.
Je suis pas en train de te dire qu'il aurait
du débat initial.
Je suis pas en train de te dire qu'il aurait dû signer au Real Madrid ou au FC Barcelone ou dans le meilleur club anglais. Je suis pas en train de te dire ça. Maintenant que Dimitri Payet fasse partie des très bons joueurs offensifs de notre championnat et à Marseille soit un leader,
de notre entre championnat qui est faible.
Oui.
Donc ça relativise quand même beaucoup
de choses. Ok, mais quand il a joué la Ligue des Champions avec l'OM, comme tu dis, pour faire des grands matchs, je suis désolé, en Ligue des Champions contre n'importe quelle équipe, il faut avoir une équipe fort, assez solide.
Dans une grande équipe, on l'aurait.
Et à Marseille, c'est pas lui qui a.
C'est pas lui qui a. Il aurait été recruté par.
J'aimerais que Willy donne son point de vue. J'aimerais que Willy donne son point de vue.
Combien est la sélection? Attends.
J'aimerais que Willy le sache.
Franchement,
Willy
le coach. Tu peux pas cracher sur un joueur comme ça.
Je ne crache pas sur un joueur.
Willy le Stéphanois, puisque.
Non. Mais si. Tu ne peux pas dire que je crache sur un joueur, ça n'est pas vrai. Je le situe au niveau que j'estime être le sien. Mais ne dis pas que je crache. Mais je dis que je le place à un niveau que j'estime. C'est mon avis.
Tu dis à 33 ans, il n'est pas capable de faire des bons matchs contre des grosses équipes en Ligue des Champions.
Il n'a pas le niveau Ligue des Champions.
Mais bien sûr qu'il a le niveau Ligue des Champions. Mais comment
Mais t'es qui pour dire ça? Mais parce que c'est le passé qui parle.
Mais t'es qui pour dire que Payet n'a pas le niveau Ligue des Champions?
T'es qui pour dire qu'il a le niveau?
Mais parce que j'y ai joué et je le sais. Et je compare les joueurs. Et ben oui.
Mais les faits quoi? S'il avait été fort, il aurait été convoité par un grand
Mais quand tu joues une compétition avec une équipe très moyenne, comment tu veux qu'il brille?
Franchement, tu te trompes.
Mais non, c'est toi qui te trompes.
Tu te trompes.
Willy, ton point de vue à toi. Tais-toi, Daniel. Okay. Willy, ton avis à toi sur Dimitri Payet.
Payet, pour moi, c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Il l'a démontré depuis le début de sa carrière. Mais depuis le début de sa carrière, Nantes, Lille, Saint-Étienne, Marseille, West Ham, de nouveau Marseille.
Déjà, c'est une année sur
On a l'impression que Payet, c'est une bonne année, une année moyenne. Une bonne année, une année
donc
moyenne.
C'est pas grand club,
et un joueur
Ligue des Champions,
comme on dit.
Ça n'a rien à voir.
Laissez parler, Willy.
Le problème, c'est que depuis, ça fait 10 ans. Avant, c'était simple, le foot. On disait très bon joueur, moyen, pas bon. T'avais 4 catégories. Maintenant, t'en as 18 des catégories. T'as le stratosphérique, t'as le galactique, t'as le super génie machin. Donc, tu sais plus dans lesquels les mettre. Pour moi, le joueur qui a le niveau Ligue des Champions, c'est celui qu'un entraîneur se dit, si je joue la Ligue des Champions, je sais que ce joueur sera bon.
Voilà.
Et la problématique peut-être avec Dimitri, c'est que, et notamment à Marseille, Il a eu des hauts, des très hauts, et en ce moment il est dans une période faste, mais il a eu également des très bas. Les dernières, c'était un cadre de l'équipe, alors c'était pas la Champions League, c'était l'Europa League, mais même en Europa League, il a complètement explosé aussi.
Jérôme, les joueurs qu'il y avait autour de lui. Il est aussi fautif parce que Jérôme, aurait pu être bien meilleur.
Jérôme, je te dis juste qu'un entraîneur.
Il a changé l'équipe depuis l'année dernière.
Les joueurs qui étaient très moyens l'année dernière, ils sont un peu meilleurs aujourd'hui.
Je dis juste quand t'es un entraîneur, t'as besoin avec tes joueurs quand tu vas jouer une grande compétition, t'as besoin d'avoir des certitudes. Et malheureusement, Dimitri, c'est un joueur, tu sais pas. T'as pas de certitude.
Mais non,
parce que tu sais pas s'il va être performant ou
mais
pas.
Mais à Marseille, après, toi, tu parles dans un contexte de grand club. Là, je te parle à Marseille. Aujourd'hui, si demain, ils font la Ligue des Champions et c'est bien parti pour, si tu veux avoir des certitudes sur des joueurs qui peuvent avoir le niveau Ligue des Champions, excuse-moi de penser que sur cet effectif-là, Dimitri Payet fait partie des premiers.
Oui.
Bah voilà, c'est tout.
Il vient dans une équipe qui fait 4 de la poule.
Mais c'est ce que je viens de te dire. Mais quand tu joues avec.
Leader et meilleur joueur, il fait 4 de la
poule. Mais quand tu joues avec des joueurs qui ont pas le niveau Ligue des Champions, comment tu veux que le numéro 10 ou ton meneur de jeu il soit bon, il rayonne? Mais écoute Daniel, ça me paraît logique, c'est un sport collectif, tu fais pas la différence.
S'il est si fort que ça, il est dans un grand
Mais si tu mets que des grands joueurs et même Daniel,
tous
au milieu,
les Français
il peut briller.
Sont réclamés. Il aurait eu sa place.
Mais d'accord. De quoi?
Pardon. Non, mais ce que je dis, c'est que à un moment donné, si tu mets que des grands joueurs autour d'un joueur, le joueur sera automatiquement bon.
Non, il a dit si tu mets Daniel au milieu de grands joueurs, même lui peut briller.
J'ai un peu exagéré. Mais c'était un peu pour dire ça. Voilà. Forcément, t'es toujours meilleur avec des grands joueurs autour de toi.
Mais
la capacité d'un très bon joueur, c'est de rendre les joueurs meilleurs à côté de lui aussi.
Il rayonne.
Pas quand j'entends des conneries comme j'entends là depuis le début. Hein.
Bon, prenons l'avis de Florent.
Dès qu'un mec tripote bien le ballon, t'es en transe.
Qui est supporter marseillais.
Ça, c'est nouveau. Je suis d'accord avec toi, moi.
S'il vous plaît.
J'ai toujours pensé que c'était un.
Salut Florent.
Un mec tripote bien le ballon, je suis en transe. Alors, ça, c'est nouveau. C'est
technique un peu.
Qu'est-ce qui vous arrive là ce soir?
Tu te fais vite enfumer, quoi. C'est comme une fille avec la mini.
Excuse-moi de préférer ça à des mecs qui font que courir.
Salut Florent.
Et qui font mal.
Tais-toi.
Sauf que après, il faut les évaluer un peu, les mecs.
Mais je te dis pas que c'est le meilleur numéro 10 au monde. J'ai jamais dit ça. Pourquoi tu me regardes?
J'ai regardé lui avant. Putain, t'inquiète pas. À chaque fois, il dit ça.
Excuse-moi,
Florent, bonsoir.
Bonsoir.
Excuse-moi, ça fait 19 minutes qu'on a commencé. Je sais pas si on va tenir jusqu'à minuit. On va voir.
bien, c'est que Dimitri Payet fait toujours parler. C'est très bien.
Ouais. Florent, tu remarqueras un truc, c'est qu'il y a 10 minutes, Daniel disait qu'il y aura les airs sur Marseille, et puis au final, ils s'engueulent depuis un quart d'heure avec Jérôme. Alors.
C'est parce qu'on a largement dévié de ton débat. Moi,
bah ouais, heureusement qu'on a fait un autre débat, parce que franchement. On passait de 500 000 auditeurs à 50 000 en deux secondes.
C'est des génies.
En fait, le truc, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien à dire sur Marseille, et ça pose beaucoup de problèmes aux médias.
Non, mais ça ne me pose pas de problème. Moi, je suis pour qu'on laisse tranquille l'OM et je suis à fond derrière l'OM. Alors,
Franchement, Daniel, je vais te dire, je suis tout le temps d'accord avec toi. Et même il y a plusieurs années, ou pas si loin, c'était compliqué pour Marseille. J'étais complètement d'accord. Et ta lucidité sur Marseille, elle fait plaisir parce que c'est pas le cas de tous les journalistes. Enfin bon. En tout cas, c'est vrai que Marseille, il n'y a rien à dire en ce moment. Et ça fait du bien, même pour les supporters marseillais, ça fait du bien. On n'a pas besoin d'entendre des articles, des discussions sur Marseille. Enfin,
pardon, il n'y a rien à dire en ce moment. La semaine dernière, tu as ton coach qui a dit je ne sais pas si je vais rester à la fin de la saison, alors que c'est un mec qui est bon et qui aujourd'hui est deuxième du championnat. À part ça, il n'y a rien à dire.
Mais le problème a été résolu en 48 heures. Bravo à l'OM de l'avoir résolu aussi vite.
Mais vous savez que maintenant, on prend notre pied en conférence de presse. On parle de foot. Et ça fait longtemps que. Ça s'est pas arrivé. Hein. Quand il y avait Rudy Garcia, on regardait les conférences de presse et puis on éteignait parce qu'en fait on n'apprenait rien. Il venait, on ne disait rien, puis il repartait. Et merci, au revoir. Là, on parle de foot. Il y a des questions qui sont très intéressantes. Et Villas-Boas, il se met à table, il nous parle de foot, il nous parle de tactique. Et là, on prend notre pied. L'avantage avec Villas-Boas, c'est qu'il dit tout, lui. Donc, effectivement, quand il y avait un problème, lui, il a déballé devant tout le monde, il n'y avait pas de problème. On va dire à la Bielsa, mais plus intelligent, c'est-à-dire qu'il y a eu le président Hérault qui est venu vers lui, ils ont discuté, après il revient en conférence de presse, il dit voilà, c'est bon, c'est réglé.
Bah écoute Florent, on va quand même écouter Villas-Boas dire ce qu'il pense du mercato. T'es à Marseille ou dans le coin ce week-end?
Ouais, je suis à Marseille. Ouais.
Et bah écoute, on va te filer deux places pour Roy manger. C'est cadeau de l'after.
C'est très gentil.
Voilà, donc bon match à toi. Hein. Donc sans Dimitri Payet, vu que.
Non, mais juste un truc, c'est que le mercato de Marseille, il va être clair. Ça va être Florian Thauvin, mi-février, qui commence à reprendre le terrain. Et ça sera, le mercato de Marseille, il va s'arrêter là. Et c'est très bien.
Bon, en effet. D'ailleurs, Thauvin, on avait annoncé, mi-février, est-ce que. On attend de voir parce que finalement, il va revenir. On sait très bien qu'entre le moment où tu reviens à ton top, il y a encore quelques semaines qui vont se passer. Florent est à Thauvin. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de Thauvin vraiment encore cette fin de saison, les gars?
Je ne peux pas attendre. Bien sûr que le jour où il aura récupéré ses capacités physiques, il va retrouver son niveau. Alors, ça ne va pas revenir au bout de deux matchs parce que quand tu t'arrêtes comme ça 4-5 mois, il faut une certaine période pour retrouver toutes tes capacités. Déjà te sortir de la tête le pépin qu'il a eu parce que ça reste ancré dans ton cerveau. Mais après, une fois qu'il aura récupéré tout ça, il va se servir aussi de la bonne dynamique de l'équipe pour récupérer un très bon niveau et être décisif assez vite. Donc il n'y a pas de raison qu'il redevienne.
Thauvin pose néanmoins un problème, c'est que l'année dernière, rien n'a marché à l'OM, il était dedans, comme tous ceux qui n'ont pas bien joué. La saison reprend, tout le monde est bon. Thauvin n'est pas là. Donc, il revient, il ne va pas être en forme tout de suite, pas complètement opérationnel. Je ne vois pas comment il peut intégrer l'équipe en titulaire en mettant dehors un joueur qui, pour l'instant, s'est bien comporté, puisqu'il y a une ossature homogène qui pousse l'OM vers de bons résultats.
Mais c'est un poste qui est quand même qui change.
Effectivement, il n'y a pas un mec qui s'est installé. Il est
occupé à 1000%, t'as raison. Mais il n'empêche qu'il va devoir la regagner, sa place. Ouais. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il sortait d'une saison fantastique dans laquelle tout savait briller et tout. Donc, en fait, tous les joueurs ont regagné leur place. Tous les joueurs se sont remis dans le bon sens. Lui, il a pas encore fait parce qu'il a pas eu l'opportunité de le faire. Il va falloir qu'il le fasse d'abord à l'entraînement et puis ensuite en match. Donc moi, je pense que d'abord son retour va se faire petit à petit. Moi, j'ai toujours considéré que cette saison, elle serait quasiment blanche pour Thauvin. L'OM, après tout, se comporte très bien sans lui et lui peut être un bonus. Ça peut être un mec qui va arriver. Dans un petit match, tu sais, de ceux qu'il faut gagner pour aller au bout dans une saison, et même s'il te claque sur la fin de saison deux buts, Qui sait si dans ces deux buts-là, il n'y en a pas un qui est important dans un match? Allez, on va prendre un exemple con, j'en sais rien, moi, un Nîmes, Angers, tu vois, ce genre de match-là qui parfois, voilà. Peut-être qu'il peut être une forme de bonus.
Oui, mais sauf
de là, considérer qu'il arrive tout de suite, tu comptes sur lui, titulaire, machin, ça dépend, j'ai du mal à
ça, ça dépendra de son état d'esprit, mais son état d'esprit, il est clair, il va aller chercher une place dans les 23 pour l'Euro.
Tu crois à ça?
Ah ben bah lui,
il une blessure
non, mais,
comme ça.
Non mais lui il y croit.
Bah, lui, après, il y croit,
mais il faut qu'il y croit.
Bien sûr, oui, bien sûr. Il faut qu'il va lui permettre de récupérer son meilleur niveau.
Il part de loin, mais il doit y croire. Parce que ça va être aussi son moteur. Ça va être sa motivation au quotidien pour faire plus, pour travailler plus. Marseille en profitera et peut-être l'équipe de France aussi. C'est ce que je lui souhaite. Mais c'est vrai qu'il part peut-être de loin.
Je vais une pause.
Je vais te donner juste là, c'est mon expérience. J'ai eu pas la même chose, mais c'était une blessure à la cheville. Une fracture, j'ai eu 3-4 mois d'arrêt, approximativement comme lui. J'étais revenu moi de fin janvier, et tout le monde m'avait dit bon bah tu vas finir l'année, il va falloir récupérer et tout ça. Et en fait, l'envie poussée par les autres et tout ça, et puis des objectifs assez élevés, j'ai récupéré l'équipe de France au mois de juin.
Dans quelques instants, le reste du mercato, l'avis de Willy sur le syndrome des blessures au PSG, et puis l'Angleterre, c'est le programme des minutes à venir dans l'after. Liverpool mène 1-0 à Wolverhampton. On joue depuis 25 minutes, pardon, dans ce match. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
L'after est là jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Jérôme Rotten et Willy Sagnol. On suit Wolverhampton, Liverpool à 0 pour Liverpool. Julien Laurence nous rejoint dans quelques minutes. J'ai encore 2-3 infos mercato à vous donner, les gars. Alors, Villas-Boas, du coup, on l'a pas entendu finalement nous dire qu'il avait envie que le mercato se termine. Enfin voilà, c'était son message principal. Il dit qu'il a quand même encore un peu peur parce qu'il a perdu Luis Gustavo dans les dernières heures du mercato d'été.
Là, il dit que c'est possible.
Il espère qu'il se passera rien, surtout dans les derniers jours pour Marseille.
De toute façon, il y en a
Morgan Sanson, parce que c'est le bruit qu'on entend depuis longtemps, mais je suis même pas sûr. Il y a pas de mec tant convoité que ça à l'OM. Hein.
Non, mais Sanson, je le vois pas dans un top 4 par exemple anglais ou mais tu vois des clubs
anglais,
des clubs 6-7-8, tu vois, de Wolverhampton, même Arsenal, tu vois, de ce genre de club là, il peut, oui.
Oh, bah, Arsenal, oui, quand tu vois que Kurzawa il va signer là-bas, là il peut,
hein. Ça c'est pas gagné, malheureusement, on en est pas sûr. J'aimerais bien que t'aies raison là.
Alors, dans le reste de l'actu mercato, il y a quelques éléments sympas.
Je souhaite Londres, c'est une belle ville.
Alors déjà, l'Atlético a confirmé aujourd'hui qu'il était intéressé par Cavani. Voilà, donc les choses avancent. L'Atlético sort du bois. Voilà, on sait toujours pas quand.
On est étonné quand même. Cavani, l'Atlético.
L'Atlético dit oui, on est vraiment intéressé par Cavani.
Là, quand même.
Voilà.
Non, mais c'est bon. Attends, je suis dans l'after ou je suis où là?
Mais moi, je vous donne les infos du jour, les gars. Bah, je vais pas t'annoncer que Messi signe au PSG si j'ai pas cette information-là.
On est sur le cul là avec Daniel.
Tuzar, Roberta Berlin.
Ah, on l'avait pas annoncé, ça.
C'est fait.
Troisième off, c'est
troisième. C'est fait.
J'avais dit le troisième barrel au poker.
Ah, tu l'avais dit, c'est vrai.
Troisième barrel. Mais en juin. Donc il reste à Lyon jusqu'à la fin de l'année.
Ah, ça on l'avait.
Willy, le troisième barrel, tu payes. Et c'est,
mais voilà, en juin, donc ils l'achètent dès maintenant, mais ils ont peur de se le faire prendre ou quoi?
25 millions.
Ils pouvaient attendre le
25.
Oui, alors ça
c'est des bonus.
J'avoue que c'était ce culbut, genre je reste quand même jusqu'à la fin
c'est
de la saison.
C'est bidon ton histoire du poker.
Le Hertha Berlin, il le kiffe à mort, quoi.
Non, mais Daniel, ton histoire du poker est bidon parce que deuxième offre, ils arrivent, ils font. Bon, deuxième offre, 25. Et là, ils font. Non. On attend la troisième. Et là, ils arrivent. Troisième offre, 25. Et là, ils font. Ah, bon, ok.
Mais non, mais troisième. Mais troisième à 25, mais en restant
en mois de juin, c'est ça.
Bon,
est-ce que c'était pas ça déjà la première? On sait pas.
Enfin,
la deuxième.
Moi, je te dis, là, les.
Mais bon. Là, c'est incompréhensible, même par rapport aux joueurs.
Mais le Hertha Berlin, mais ils ont un directeur sportif, si je dis, il a vu des photos de lui, il est tombé amoureux.
Ils ont Klinsmann comme entraîneur, peut-être que c'est ça.
Ah, bah, Klinsmann, il est tombé amoureux.
Bah, je pense.
Klinsmann, tu connais bien Klinsmann?
Oui.
C'est bien, genre à tomber amoureux d'un joueur?
Oui. Toi, tu vas... Attends, laissez parler Willy, il va nous expliquer des choses.
C'est quoi ce fou rire?
Non, c'est
peut-être.
Klinsmann, c'est un. Klinsmann, c'est un, si vous vous rappelez, c'était un joueur, c'était un combattant, c'est un mec qui courait, et il aime bien les joueurs comme ça. Il accorde beaucoup d'importance à la préparation physique, aux mecs qui vont aller sauter, courir, taper à droite, à gauche. Et je pense que Touzard, c'est un joueur de devoir. C'est un mec qui se bat. Et je pense que
25 Klinsmann, en plus, tu restes à 6 mois.
Oui, mais c'est pas son argent, Klinsmann. C'est l'argent d'un Allemand qui a de l'argent. Donc, à la rigueur, il s'en fout. Et lui, il colle dans son.
Des fois, il doit être étonné. Mais attends, mais c'est moi là qui veux à ce point-là.
Ben attends, mais.
Et ils sont prêts à tout.
Moi, je suis presque plus choqué quand je vois 70 ou 75 millions pour Ndombele que 25 pour Touzard.
Oh ben c'est vrai que 70 Ndombele, c'était le casse du siècle quand même.
Oui, mais il y a la.
Ça montre une chose, que Lyon vend très très bien.
T'as suivi l'histoire Klinsmann avec son diplôme?
Oui, qu'il l'avait oublié.
C'est génial cette histoire.
Ouais.
Parce qu'en Allemagne, il y a une règle qui veut que, en fait, tous les 3 ans, je crois.
C'est le recyclage.
Voilà, et les entraîneurs ont obligation de faire un petit cycle de formation de, voilà, que tu dois valider, quoi. J'imagine que ça va pas être trop compliqué, mais enfin bon. Donc lui, quand il est devenu au Hertha, on lui a dit bon, bah ok, bah, faut que tu montes ton diplôme. C'est un truc comme tu montes ton permis, quoi.
Il l'avait pas.
Il l'avait pas. Et en fait, il y a gros doute. Et lui, il dit non, mais je l'ai oublié chez moi en Californie, ça doit être dans un tiroir. Il a dit ça. Oui. Donc en Allemagne, c'est un peu bizarre, quoi.
Non, mais pour revenir sur Lyon, sur Mercato, parce que j'ai beaucoup dit cette semaine, et c'est vrai qu'à 80-90%, ils ratent le recrutement dans les mecs qu'ils font venir. Mais en fait, ils font quelque chose qui est formidable, c'est que les mecs qu'ils font venir, ils les revendent, même s'ils ne sont pas d'une plus-value énorme sportivement, et beaucoup même carrément pas du tout. Mais derrière, mis à part des cas, il y a beaucoup de cas un peu foireux, hein, de Gourcuff à Briand, à Mateta, machin. Mais certains, au final, d'un point de vue financier, ils retombent toujours sur leurs pattes et de façon très positive. Hein. Parce que Ndombele, dont tu as parlé, entre le prix d'achat et la revente, énorme. Même un mec comme Mamana, qui a quasi, on peut dire, presque pas joué à Lyon. Avec bim, revendu le double. Là, Touzard, 25 millions, c'est énormissime. Alors que tu dis, bon, bah, il va pas marquer l'histoire de Lyon.
Mais après,
ce qu'il a fait sur le terrain.
Mais aujourd'hui,
il y en a beaucoup, faut des mecs comme ça.
Ouais, alors il le vend très bien, mais par rapport au prix,
il s'en va. Ils vont faire un fois deux fois trois.
Non, mais par rapport au prix de Touzard, le foot aujourd'hui, les transferts, t'es plus dans des considérations de timing et de contexte que des considérations de valeur.
C'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai,
parce qu'aujourd'hui, t'as le Hertha Berlin. Ils ont fait venir Klinsmann. Il l'avait fait rentrer d'abord au conseil d'administration. Là, il est entraîneur. En fait, ils sont en train de préparer la saison prochaine. Et la saison prochaine, ils veulent construire une belle équipe, ou en tout cas ils se donnent les moyens de construire une belle équipe, et ils le font avant. Ils se disent ils coûtent 25 millions maintenant, peut-être que l'année prochaine, si on est en urgence pour l'acheter, peut-être on va nous dire non, mais peut-être que l'année prochaine on va nous dire c'est 30, tu vois. À partir du moment où ils ont fait le premier appel à l'Olympique Lyonnais en disant on est intéressé par votre joueur, que Olas a dit j'en sais rien, c'est 28 ou 30,
et que le joueur veut y aller aussi,
si jamais tu reviens l'été prochain, il va te dire même encore plus, parce qu'il sait que tu le veux vraiment, le joueur. Donc il préfère peut-être surpayer un peu maintenant que surpayer l'été prochain.
C'est vos Girard à 300, quoi.
Au niveau mercato, encore une dernière info, vous dire que le jeune Guimaraes à Lyon, ça se complique parce que l'Atlético est rentré dans la danse.
L'Atlético a un droit.
Avant qu'on revienne là-dessus, ce que tu dis sur les circonstances, c'est intéressant, oui, parce que regarde, ça m'y fait penser le coup de l'Atlético. En temps normal, tu te dis bon, ben. Cavani, ce sera fin de saison, tu vas pas le revenir.
Mais
les circonstances, le contexte font que l'Atlético a absolument besoin d'un joueur maintenant, parce qu'ils sont en panique, aussi bien championnat, ça va pas fort, Ligue des Champions, et peut-être que grâce à ça, le PSG peut faire un 10-15 millions sur un joueur qui, a priori, devait plus rien rapporter.
Ouais, plus le salaire que tu avais économisé pendant 6 mois, donc à la sortie, c'est peut-être plus de 20 millions.
Je pense que Paris, par rapport à tous les autres clubs, ils sont peut-être pas trop dans ce calcul-là, quoi.
Oui, enfin, à un moment, l'argent, c'est l'argent. Tu vois, même quand on a, tu comptes. Toi-même, tu comptes des fois quand tu vas au Jardiland.
Moi, plus beaucoup.
Alors, voilà pour les infos mercato du jour. Juste, Willy, je voulais profiter de ta présence parce qu'il y a un débat un peu transversal à toutes les émissions là depuis quelques jours, et j'aimerais bien avoir ton avis.
Très belle émission transversale.
Oui, on va en parler tout à l'heure.
T'aimes bien la dire, cette phrase.
Daniel,
je l'ai déjà entendu la dire, mais je sais, je m'en rappelle plus quand, mais je t'ai déjà entendu dire.
le syndrome Dortmund là, c'est-à-dire tout le monde parle que de Dortmund. Alors, les médias certes, mais enfin bon, on a l'impression que tout le monde ne pense qu'à ça dans le monde du foot français, le PSG, alors que c'est dans maintenant un mois. Dortmund, eux, ils s'en fichent un peu hein, pour l'instant. Qu'est-ce que t'en penses toi?
Ouais, après je peux te dire que si tu habites Bordeaux, tu t'en fous aussi un petit peu. Les gens ils en parlent pas à Bordeaux de
c'est du un fait délire que de Parisien.
Bah oui, bah
c'est
bien sûr,
normal, ça,
bah, bien sûr.
Qui suivent le PSG,
bah, c'est normal, Paris. C'est normal, ça intéresse les gens, les supporters, c'est normal.
Ah oui, après, ils s'en foutent. Hein.
Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, je le redis là très clairement. Pour moi, le PSG est largement.
Laisse finir Willis.
Le PSG est largement supérieur à Dortmund. Je ne sais pas si vous regardez
largement.
Mais moi, faut regarder Dortmund dans sa globalité, ce qu'ils font depuis le début de saison. Et depuis le début de saison, Dortmund a une défense passoire. Et quand en face t'as Mbappé, quand en face t'as Neymar, je veux même pas citer Icardi, Di Maria, mais quand t'as un tel potentiel offensif, alors oui, je pense que Dortmund sur le match aller-retour va poser des problèmes, va marquer des buts, mais je pense que le PSG peut mettre, en termes de buts, peut mettre deux valises à cette équipe-là.
Ah mais écoute, peut-être, mais le PSG est aussi une équipe qui deux fois, alors que les stats disaient qu'à 99% t'étais qualifié, ils l'ont pas fait.
Ils l'ont pas fait, voilà. Mm.
Donc restons
deux fois sur trois.
Restons vigilants.
Non, restons vigilants. Si le PSG joue sur sa valeur,
quand deux fois sur trois à 99%, tu passes pas. C'est quand même bouillant.
Mais si tu joues sur ta valeur,
Manchester United, c'était pas passoire derrière, c'était passoire partout. Hein. Ils sont une équipe d'enfants au parc.
Non, je préfère se dire que le mur jaune
va craquer.
Honnêtement, la qualification du PSG, c'est match retour à la 94e, on en parle. Et encore, il ne faut pas qu'il y ait un but d'écart et qu'il reste deux minutes, hein, parce que sinon, c'est mort.
Dans quelques instants, on parle de l'Angleterre. Et puis tiens, si vous êtes dans le coin de Marseille ou supporter de l'OM et que vous voulez aller au match ce soir, appelez le 32-16, inscrivez-vous pour participer au quiz. Parce que dans le quiz, tout à l'heure, on vous fera gagner des places.
Du Marseille-Angers.
Écoute, on a des places à faire gagner, donc on en profite. C'est sympa quand même.
Marseille, bien sûr.
Si vous êtes à Marseille et que vous voulez aller au match, inscrivez-vous 32-16 pour participer au quiz tout à l'heure et vous pourrez gagner vos places. Pour Marseille-Angers, à tout de suite dans l'after avec l'Angleterre au premier.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Willy Sagnol qui est là avec nous tous les jeudis, bien sûr. Daniel Riolo, Jérôme Rotten. Je rappelle que tout à l'heure à 22h, on se plongera dans l'histoire des erreurs d'arbitrage qui ont marqué le football. Ce sera tout à l'heure, bien sûr. Restez avec nous pour cela et pour le reste. Mais tout de suite, c'est l'Angleterre qui est au programme. Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous. Salut
Julien, il y a un match en cours. Liverpool mène toujours 1-0 face à Wolverhampton.
Toujours, effectivement. La mauvaise nouvelle du soir, hein, c'est la blessure de Sadio Mané qui est sortie à la demi-heure de jeu pour Liverpool. On ne sait pas encore, il a grimacé. Bah oui, je pense qu'il inquiète beaucoup de supporters de Liverpool aussi et de supporters sénégalais, mais je pense que c'est une blessure musculaire vu la façon dont il s'est blessé, le moment du match et la tête qu'il faisait, il est parti directement au vestiaire, on en saura un petit peu plus à la fin du match, mais espérons pour Liverpool et pour Sadio Mané que c'est pas très grave et que c'est une de ces blessures un petit peu comme Jamie Vardy hier soir qui le tiendra pas éloigné des terrains trop longtemps, mais c'est pour l'instant le seul point noir de la soirée qui, pour l'instant, pour Liverpool, est plutôt bien engagé.
Tiens, dis-nous un mot de ce joueur de Wolverhampton, Traoré, là. Lui, il faut qu'il arrête la muscu. Hein. Parce que, vous l'avez vu, ce joueur vas-y.
C'est Hulk. Ouais. Non, c'est Hulk. C'est vraiment Hulk. Physiquement, je pense que le joueur, musculairement, c'est le joueur le plus fort en Europe aujourd'hui. Lui jure qu'il ne fait pas de musculation dans le sens où il soulève pas des poids. Laissez-moi finir.
Il fait des mais il fait pas de muscu.
Dans le sens soulever de la fonte tout le temps.
Ah ouais, je peux te dire que
laissez Julien parler.
La piste d'athlétisme, il en bouffe, le 400 mètres, il est fort.
Non, dans le sens, Jérôme, où soulever de la fonte un peu à l'ancienne, tu vois, comme les bodybuilders, quoi.
Non.
Ça, il dit qu'il fait pas. Après, moi,
il soulève autre chose.
Pas là pour voir ce qu'il fait. Non, mais bon, en tout cas, c'est vrai que musculairement, au niveau des épaules, du torse et des bras, c'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi.
Mais disons que ça ressemble pas à un footballeur, en fait, c'est ça qui est étrange. T'as l'impression d'avoir un talonneur de rugby tanké qui joue au foot, en fait, c'est bizarre.
Il y en a quelques-uns, même c'est en
ligne. Non, mais bodybuilder comme ça, franchement, j'ai jamais vu.
Oui,
on va vous mettre une photo sur le compte Twitter de l'After.
Comment s'appelait en Angleterre le joueur que t'adorais à une époque, là, Danny Shitou?
Ah, qui ne fait noir!
Danny Shitou, quel bourrin, le bourrin Shitou, ultime.
C'était
un défenseur central nigérian.
Le Nigérian.
Lui, c'était.
Tu veux pas être Shitou?
Non, puis Akin Fenoua surtout, c'est le, oui. C'est l'autre grosse bête musculaire du football anglais.
Qui joue pas à Wimbledon, lui?
Tout à fait, c'est ça. Voilà. Exactement.
Bon, alors, tu avais une journée en semaine, là. Qu'est-ce qu'il faut retenir de comme info principale?
Alors, le gros choc de la semaine, c'était le Chelsea-Arsenal de mardi soir à Stamford Bridge, entre Lampard et Arteta, avec Aubameyang encore suspendu pour Arsenal, et le jeune Gabriel Martinelli qui continue vraiment de s'affirmer, d'étonner tout le monde ici en Angleterre. Il a que 18 ans, il a marqué sur une chevauchée de 70 mètres. Alors, il a été aidé par la glissade d'N'Golo Kanté. D'ailleurs, il y a une photo qui fait très mal pour tous les amoureux d'N'Golo Kanté, où tu le vois glisser, il est à plat ventre sur l'herbe, et Martinelli qui passe à 2000 à l'heure à côté de lui pour aller ensuite tromper Kepa. Un match nul, deux buts partout, un petit peu contre le cours du jeu, même beaucoup contre le cours du jeu pour Arsenal, mais qui a montré du caractère, et Chelsea qui a eu beaucoup de ballons, qui a eu les meilleures occasions, mais qui a pas vraiment su terminer ces occasions-là, et qui finit par perdre deux points. Ce qui est fascinant, c'est que Liverpool est largement au-dessus, que Manchester City est lui aussi au-dessus du reste, mais en dessous, Leicester, avant le match d'hier soir, avait perdu 4 de ses 6 derniers matchs de championnat. Chelsea fait du surplace, Tottenham fait du surplace, Manchester United, c'est la catastrophe, c'est la crise, et pourtant ils sont toujours 5e, Arsenal est 10e. Ça veut dire que ce ventre mou là en Première Ligue, c'est un niveau très très moyen cette saison.
Bon, il y a un petit nivellement par le bas.
Il y a un nivellement par le bas, et c'est surtout ces grosses écuries habituellement qui cette saison sont soit dans une saison de transition, soit dans une saison de crise comme Tottenham a pu le faire, et Manchester United maintenant, et Arsenal aussi, où c'est des périodes beaucoup plus difficiles, alors que de l'autre côté, Chelsea, pour Manchester City pardon, et Liverpool, eux, cette transition là ils l'ont commencé il y a quelques années, et tu vois le fruit du travail fait ces 3-4 dernières années. Et là, ils arrivent à leur maximum, et surtout pour Liverpool, c'est une période assez faste. Mais pour les autres, ils sont vraiment dans le dur, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de gros clubs dans le dur en Première Ligue.
Et Leicester en profite en continuant de tenir la cadence.
Voilà, même si, comme je viens de te le dire, hein, 4 défaites lors des 6 derniers matchs avant la victoire contre West Ham mercredi soir, hier soir.
Ils sont là encore, hein.
Malgré tout, ils sont 3. Oui, c'est ça qui te montre justement la faiblesse finalement de cette Première Ligue cette saison, c'est que même en ayant perdu 4 de leurs 6 dernières journées de championnat avant le match d'hier soir, Leicester était encore 3e avec 11 points d'avance sur le 5e.
Ah non, si même toi tu dis que la Première Ligue est faible, qu'est-ce qu'on va dire nous alors?
Non, pas faible dans ce sens-là si tu veux, mais quand je sais pas ce que tu as regardé comme match cette semaine, mais si tu regardes même le Chelsea Arsenal, c'est pas du très très haut niveau. Quand tu regardes Tottenham jouer,
t'as pas vu Lyon Lille alors, hein.
Non, mais je compare pas avec la Ligue 1, c'est pas comparable.
Non, mais moi je te rejoins, Julien, parce que j'en ai commenté pas mal, moins cette année, mais mais c'est vrai que quand tu regardes les matchs aujourd'hui, tu te retrouves avec, t'as pas tout le temps du spectacle, t'as souvent aussi des erreurs techniques inhabituelles en Angleterre, parce que t'as souvent des bons joueurs, même dans des équipes très moyennes ou des petites équipes. Donc, là c'est moyen. Alors après, est-ce que c'est dû à plein de choses, je pense. C'est toujours pareil, hein. On joue
beaucoup à reconstruire, hein. Chelsea, non, Arsenal, mais... City, il y a eu pas mal d'absents et c'est moins brillant que ça a pu l'être, et on parle quand même d'une équipe qui pratique toujours un certain standing, qui tient toujours un certain standing en jeu. Effectivement, ouais, pas mal d'équipes comme ça avec des jeunes entraîneurs, pas de Manchester United. Alors,
transition, c'est un bon mot.
C'est ça, voilà.
En transition, c'est un bon mot.
Dis-nous un mot de Tottenham et de Mourinho là, qui recolle un petit peu.
Qui recolle, mais c'est dur quand même. Alors la bonne nouvelle, c'est le retour du Golioris après 3 mois et demi d'absence suite à son opération au coude. Ça, c'est vraiment très bien pour lui déjà, pour Tottenham, mais aussi pour l'équipe de France, bien sûr.
Plus rapide que prévu, hein, quand même.
Plus rapide que prévu, et puis surtout on n'était pas sûr s'il allait jouer. Mourinho lui a annoncé assez tard, on l'a su assez tard aussi, mais c'est peut-être mieux pour lui. D'ailleurs, il s'est peut-être mis moins de pression que s'il avait su depuis quelques jours qu'il allait débuter ce match contre Norwich. Mais dans le jeu, dans le contenu, c'est encore assez faible. Ils s'en sortent, mais ils mènent au score, ils se font égaliser sur penalty. Défensivement, c'est encore pas ça. Ils encaissent un but. Offensivement, ils ont du mal à se créer des véritables occasions. Alors ils gagnent, c'est sûr, ça va leur faire du bien mentalement. Mais t'as encore du mal à voir quelle direction ils sont en train de prendre. Ils galèrent pour recruter un avant-centre. Ils vont aller chercher William José à la Real Sociedad, qui est quand même pas, sans faire offense à la Real Sociedad et à William José, c'est pas non plus le genre d'attaquant de ce calibre-là que tu penses un joueur comme Tottenham irait chercher. Et pourtant, c'est ce qu'ils vont faire. Voilà. Je trouve que c'est une période assez compliquée pour eux aussi.
Ouais, effectivement.
Club phare en difficulté. Donc,
attends, permets-moi quand même une question à Willy.
Ça me se renforce ou pas ? Alors,
permets-moi une question à Willy quand même sur Mourinho. On a eu un débat l'autre soir assez enflammé avec les drôles de dames sur Mourinho. Est-ce qu'il est encore dans le coup ? Est-ce qu'il est complètement has-been ? Simone Rovera disait qu'il était encore dans le coup.
Il y a Simone qui est encore amoureux de lui depuis 10 ans.
Mais toi, t'en penses quoi, Willy ?
Moi, je pense que c'est toujours un très bon entraîneur. Je pense qu'il y a la problématique surtout c'est pas Mourinho qui a changé, c'est aussi son public. Quand on appelle le public, ce sont ses joueurs. Là, il y a ces d'autres générations de joueurs qui sont beaucoup plus compliqués à manager en règle générale, parce que il a toujours eu un, enfin je sais comment il était quand il était à Chelsea, comment il était quand il était à l'Inter, et il avait quand même des joueurs qui moi, je trouve que les joueurs s'identifiaient beaucoup plus à leur club, à leur institution auparavant. Aujourd'hui, c'est différent. Les joueurs changent un peu plus. Là, ils retrouvent quand même un club où les joueurs ont, sur la durée, quand même restent. Tottenham, c'est quand même un club où les joueurs restent. Mais voilà, c'est peut-être son discours à un moment donné aussi qui doit évoluer par rapport à un public différent. Et je pense que c'est surtout là que ça coince un peu.
Ouais, bah quand t'arrives pas à te remettre quand t'arrives pas à te renouveler,
ouais,
ton discours,
mais bon,
c'est inquiétant.
Ça, non, mais c'est un entraîneur sur les 20 dernières années, c'est l'entraîneur qui a le plus de succès, donc voilà.
En termes de titres ?
Ouais, je pense, ouais. Non ?
Oui, je sais pas, comme ça je réfléchis.
Ouais, il doit en être loin. Mais bon, les 2-3, il fait partie des 3-4.
Oui,
voilà.
Klopp, il va commencer à le dépasser bientôt.
Guardiola en 1.
Guardiola en 1, tu dis ?
Il va y avoir Mourinho pas loin. Oui, enfin bon, il fait partie.
Donc il fait toujours partie du gratin. Après, oui. Il y a des expériences plus compliquées que d'autres. Ce qui est sûr, c'est que quand Mourinho part, la seule certitude, la seule, on va dire, récurrence qu'il y a, c'est que quand il part, ça se passe mal.
Non, mais ce qui est.
C'est les dernières années qui sont.
Non, puis ce qui est sûr, c'est que ça confirme encore qu'un entraîneur. En très peu de mois, tu vas pas me contredire, Willy. En très peu de mois, qu'est-ce que tu veux, il peut pas tout révolutionner non plus. Il faut qu'il mette ses méthodes en place. Il faut que les joueurs ils adhèrent à cette méthode-là, que ça montre une chose. Et c'est bien pour Pochettino, bah, que l'entraîneur qui était là avant, Pochettino, il n'était pas devenu d'un seul coup le maillon faible et un entraîneur qu'on avait mis tout là-haut et très faible aujourd'hui. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont mises en place.
Pochettino, on sait, la seule chose qui s'est lui arrivée, c'est qu'il ait perdu. Il a perdu son groupe, tout simplement.
Oui. Mais il a perdu. Mais ça
changeait rien.
Mais à l'arrivée, Mourinho, il les a pas récupérés pour autant. Ah ben parce que les mecs, quand ils ont la tête dans le seau, je peux te dire que d'un coup comme ça, c'est pas parce que tu changes de tête.
Après, il faut mettre à sa décharge. Je le critique souvent, mais il perd Harry Kane, qui est quand même un joueur majeur.
Oui, Eriksen, c'est plus du tout le même joueur parce qu'il a qu'une envie, c'est de se barrer. Voilà. Donc quand tu perds tes meilleurs joueurs,
effectif à renouveler aussi.
Après, donc, le problème, le problème pour moi, c'est qu'aujourd'hui, le football qui gagne, c'est ce football avec l'intensité, avec ce contre-pressing. Et ça, Mourinho, il ne fait pas. Il ne fera jamais.
Il est dépassé depuis longtemps maintenant. Il est dépassé, il est en retard, il a été sur le toit du monde, ça arrive, hein, c'est quand même des acteurs, des réalisateurs, dans tous les métiers, on a des mecs qui ont atteint des
sommets.
Oui, mais
tu penses pas que.
Et puis derrière, après,
tu penses pas que quand tu atteins le sommet.
Des groupes d'Europe, qu'ils ont des albums, et puis derrière, ils ont fait.
Non, mais quand tu gagnes tout comme ça, c'est des mecs qui ont qui sont visionnaires, en fait, donc ils s'en rendent compte.
Pourquoi dans toutes les activités humaines, dans tous les sports, t'as des mecs qui atteignent un sommet à un moment de leur gloire, qui sont pendant 10 ans, et puis derrière tout chute. Le football ne va pas faire exception à cette règle-là. T'as des acteurs qui pendant 10 ans touchent tous les meilleurs films, hein, et puis d'un coup dans leur carrière
dans le foot
ça arrive partout,
dans le foot des entraîneurs qui ont gagné partout. Non, mais des entraîneurs qui ont gagné partout, dans des générations différentes aussi, parce que
les générations de joueurs, les machins, à un moment tu perds le truc, ça arrive, dans tous les métiers, pourquoi pas.
Mais la force des grands entraîneurs, c'est pour ça qu'on les met en avant, c'est de aussi de se réinventer.
Combien t'en as qui ont duré sans jamais avoir de. Regarde, Van Gaal, c'était toit du monde, 95, quand il gagne avec la bande des jeunes de l'Ajax. Tout le monde le veut, il est novateur, il fait son petit dictateur
c'est
dans
pas
les
faux,
clubs.
C'est pas faux, oui.
Et à un moment, ça ne colle plus, sa méthode ne colle plus.
Julien, tu peux rester encore quelques minutes avec nous après 22h ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Parce qu'il faut quand même qu'on dise un mot de Manchester United. Parce que là, c'est un sujet, la fronde commence à monter.
L'entraîneur qui, à un moment, avec le changement de génération, un mec comme ça.
Et puisque tu as entendu, toi, sur West Ham et Payet aussi.
Il était dépassé.
J'ai eu une beau révolution.
Et Willy, il reste.
Non, Willy s'en va.
Willy, il est vieux.
Willy, c'est une heure coaching. Il y a Julien Casar qui va rentrer dans la
classe. Une demi-heure, c'est cramé.
Sur l'heure du jeudi, t'es un peu cégétiste. C'est vraiment une heure, c'est tout.
Tu penses? Attends, non, c'est à l'allemande. Aujourd'hui, une heure, tu fais une heure. Et franchement, aujourd'hui, c'était plus une demi-heure qu'une heure. Hein. T'as subi la première demi-heure.
Franchement, tu pourrais faire un
peu. Non, mais c'est la première demi-heure. Vous êtes parti dans votre guéguerre tous les deux. C'était ridicule. J'ai pas envie de.
Merci Willy. Bravo Willy. Reviens quand tu veux. À tout de suite dans l'after. Encore un peu d'Angleterre. Et puis les erreurs d'arbitrage, les grandes erreurs d'arbitrage de l'histoire du foot au programme. C'est tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.